mieux pas.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM et DAB+. Aujourd'hui, vous êtes en compagnie de moi-même, François, de Pierre-Yves.
Salut à toutes.
De Reynald.
Bonjour à tous.
Et de Dominique.
Salut à tous et à toutes.
Nous allons parcourir ensemble l'univers ludique et geek pendant cette heure de 18h à 19h. Je vous propose de continuer ce sujet qu'on a entamé ces deux dernières semaines, puisque nous avons longuement parlé de jeux de société grâce au Festival de Cannes, qui, cette année, va malheureusement ne pas avoir lieu sur place, comme on peut se le douter, mais cela n'empêche pas que l'on aura droit à des nominations. On a plusieurs catégories, on a déjà entamé la catégorie tout public, celle expert, et on va terminer avec la catégorie du jeu de l'année pour enfants. Alors généralement, la catégorie d'âge ici, on est, je veux dire, 5 et 12 ans, généralement, pour une catégorie
ouais,
junior.
Oh, peut-être même un peu moins 12, j'aurais plutôt entre 5 et... Ouais, 8, 9.
Alors, nous avons plusieurs nominés cette année. Il y aura Détective Charlie, Dragomino, Kraken Attack et La Maison des Souris. Et on peut détailler, premièrement, ce jeu qui s'appelle Détective Charlie. Ici, on va partir sur un jeu coopératif où il va falloir, grâce à une série de déductions, trouver... Alors, non pas un meurtrier, puisque ici, on est dans du jeu pour enfants, mais plutôt... un coupable, voilà, parmi une série de suspects. Alors généralement la partie se déroule en plusieurs tours où on va lancer une série de dés.
En fait tu te retrouves avec 6 énigmes qui sont de difficulté croissante dans la boîte et une énigme vient avec son lot de suspects. Ce sont des cartes d'animaux avec par exemple leur taille, ce qu'ils mangent, la forme de leurs pattes, etc., et des cartes indices que tu vas placer sur la table et tu vas jeter un dé pour aller de carte indice en carte indice. Et le but du jeu, comme tu disais François, est de retrouver le plus rapidement possible lequel dans les suspects est le coupable. Par exemple, la première énigme, c'est qui a peint la plage en rose, et sur les 8 suspects, il faudra retrouver lequel qui a fait ça. Et une des cartes indices, c'est par exemple quelqu'un qui vous dit « moi j'ai repéré toutes les traces qu'il y avait sur le sable, voici les traces de pattes que j'ai trouvées. » Et c'est aux enfants de regarder sur les cartes de suspects, par exemple, quelles traces de pattes il n'y a pas, pour dire ce suspect-là n'a pas été sur la plage, donc c'est pas lui le coupable. Et commencer à faire des éliminations de ce type-là. Le but étant pour les enfants de garder une coordination et de se rappeler tous les indices qu'ils ont vus, parce que peut-être qu'un indice va devoir faire appel à un autre indice pour éliminer un suspect.
C'est du Cluedo, mais coopératif.
Par contre, comme ça se base sur un dé, forcément, oui, tu auras le fait de résoudre une énigme très rapidement, parce que le but, c'est de le faire le plus court en temps possible, n'a pas forcément lieu d'être, parce que sur le dé, c'est un dé à 6 faces commun, tu jettes le dé, tu as une chance sur 6 de passer ton tour, mais de faire quand même avancer l'heure. Le but pour les enfants, c'est plutôt de résoudre l'énigme et de trouver le coupable dans les suspects.
En sachant quand même que tous les indices découverts par les enfants... ce sont de vrais indices, c'est-à-dire il n'y a pas de mensonges dans ce que disent les personnages donc, qui sont interrogés. Donc bon, ça facilite quand même le jeu. Mais du coup, c'est vraiment, comme tu disais, Renat, de la déduction et puis se souvenir des indices qui ont été dits précédemment pour recouper et déterminer qui est le coupable.
Alors, niveau design, on est vraiment sur un thème assez sympathique. Par contre, si on devrait donner un point négatif à ce jeu, c'est qu'il y a 6 enquêtes. Et seulement 6 enquêtes. Ce qui fait qu'une fois que vous les avez tous réalisées, malheureusement, il y a une faible rejouabilité du jeu. Et on peut rapidement, en une après-midi, faire rapidement les 6 scénarios. Donc dans les avis, il y a des personnes qui se sont arrêtées de jouer pour pouvoir continuer lors d'une session suivante. Alors à savoir que sur Internet, on peut trouver quelques print and play de nouvelles enquêtes de Détective Charlie et qui peuvent limite... vous inviter à créer vos propres enquêtes.
Après, je dirais que c'est un peu comme tous les jeux type Unlock, où en fait, c'est pareil, vous avez des énigmes à résoudre. Une fois que vous avez fait l'énigme, effectivement, la partie dure une heure et demie, vous en avez 3 dans une boîte. Après, généralement, soit vous la donnez, vous la revendez, vous en rachetez une autre à la place. On peut dire que c'est un peu dommage. Après, c'est aussi l'occasion, du coup, de donner le jeu à quelqu'un d'autre pour qu'il refasse les scénarios.
6 enquêtes pour 18 euros, c'est moins cher qu'une séance de cinéma avec des gamins. Hein.
Mais il n'y a plus de cinéma, la question ne se pose même plus.
C'est un jeu qui est édité par Loki. Et c'est un jeu de... Alors, les illustrations, c'est Piper Thibodeau, c'est un freelance canadien, comme son nom l'indique, et c'est la première fois qu'il fait un jeu d'illustration pour un jeu de société. Par contre, l'auteur, c'est Théo Rivière, et non seulement c'est pas le premier jeu qu'il fait avec succès, mais en plus, il a un autre jeu dans la catégorie enfant, qu'on va découvrir tout à l'heure.
Alors, un jeu qui est déjà victime de son succès, puisqu'il y a de nombreuses ruptures de stock, donc on peut éventuellement retrouver des rééditions, ou même se rendre sur des sites, peut-être d'occasion, puisque comme justement les gens ont joué les 6 enquêtes, généralement ils peuvent les revendre et remettre la boîte en état.
Si le jeu a du succès, enfin s'il gagne le Last Door, il y a des chances qu'il soit non seulement réédité, mais qu'il y ait des nouvelles enquêtes.
Je vous propose d'enchaîner avec le deuxième jeu, Dragomino, nominé pour les Last Door de Cannes, édition 2021. Alors comme son nom l'indique, il y aura des dragons et il y aura des dominos. Et on part ici sur un gameplay assez basique où on va devoir récupérer des dominos au centre de la carte et créer des petits terrains chacun de son côté. À savoir que lorsque vous allez combiner des terrains ensemble, vous allez pouvoir récupérer des œufs de dragon. Et le but du jeu est là, il va falloir récupérer le plus de dragons possible. Alors dans la mécanique, elle est assez simple puisqu'elle est destinée ici à des joueurs à partir de 5 ans. Et on est sur des parties de moins de 30 minutes. Alors le petit twist, c'est que les œufs que vous allez récupérer, des fois, sont vides. Donc vous n'allez pas forcément toujours avoir des dragons.
Pour ajouter, même que quand tu prends un œuf et que tu le retournes, tu le mets vide sur ton terrain, tu as peut-être perdu entre guillemets ton tour parce que tu n'as pas gagné de dragon qui te rapporte des points de victoire à la fin. Mais ça te permet de récupérer le pion premier joueur pour le tour suivant, en espérant le garder jusqu'à la fin du tour. C'est un autre joueur. Prends un œuf de dragon qui est vide et le récupère à son.
Et plus tu connectes de terrain, parce que tu peux connecter un terrain, voire deux. Et dans ce cas-là, tu as des petits bonus.
Il faut savoir que moi, quand j'ai entendu Dragomino, j'ai dit ça me rappelle quelque chose. Et puis j'ai vu le nom de l'auteur de jeu, Bruno Catala. Je dis ok. En fait, c'est la version enfant, on va dire, de King Domino. King Domino qui a cartonné il y a quelques années. Je me demande s'il n'a pas eu un As d'or. D'ailleurs, c'est très possible. Ils en ont vendu des millions de boîtes. C'était déjà chez Blue Orange. Il y a eu un autre jeu, Queen Domino. Il y a eu une ou deux extensions. Etc. Enfin, c'est vraiment un jeu excellent, King Domino, qui a bien marché, qui est connu, et c'est pas étonnant que c'est même étonnant qu'il n'y ait pas eu une version enfant plus tôt d'ailleurs. Même si c'est vrai que le jeu de base King Domino, tu peux y jouer avec des petits, c'est vraiment pas compliqué. Enfin, c'est vraiment très sympa.
On va en parler tout à l'heure de ces éditions de jeux qui ont une portabilité pour les juniors.
Les dominos étant séparés en terrain pour pouvoir après, comme tu disais, mettre les œufs de dragon de la bonne couleur sur le terrain que tu as formé, tu as plus d'œufs d'une certaine couleur que d'une autre couleur. Donc ça va forcer les enfants, une fois qu'ils auront compris ça, à se focaliser sur une couleur et commencer à apprendre ce que tu apprends, par exemple, à l'école maternelle, qui est, par exemple, de savoir trier, comparer, catégoriser, faire de la manipulation mentale de tuiles en disant « si je prends celle-là, je vais la mettre comme ça ».
Donc t'as... Avec un petit peu de prise de risque en plus.
Et tu as tout un process d'analyse de stratégie. Tu as tout ce qu'en école maternelle, tes maîtres et maîtresses essayent de t'apprendre avec différents ateliers. Là, il t'est proposé simplement et en une partie, t'expliquer les règles et les enfants s'occupent et peuvent rejouer sans toi.
C'est que ces deux illustratrices qui ont fait les illustrations du jeu, elles avaient déjà, donc c'est Maëva De Silva et Christine Deschamps qui avaient déjà travaillé sur le jeu de société avant.
Et en sachant que les illustrations sont vraiment très belles, hein. Enfin, j'aime beaucoup les dessins. À la limite, je dirais l'enfant peut jouer rien que pour réussir à mettre deux tuiles ensemble côte à côte, donc deux tuiles identiques, sans forcément après trop se focaliser sur la partie je prends des dragons, je marque des points, je joue premier pour choisir en premier ma tuile. Enfin, déjà, rien que pour cet aspect-là, le jeu est très beau.
On avait parlé de l'auteur qui était Bruno Catala, mais il a été accompagné cette fois-ci par un duo qui est assez connu dans le milieu du jeu de société, qui est Marine et Wilfried Fort. Si je ne me trompe pas, ceux qui avaient fait Dynamic Two Kill.
Qui ont l'habitude, qui ont déjà pas mal travaillé sur des versions enfants. Ils ont même travaillé pour la société ABBA, c'est pour vous dire, c'est la référence des jeux pour enfants. Donc j'imagine qu'ils ont un peu aidé le vieux Bruno Catala à baisser son niveau. Ça, c'est un petit peu difficile à dire, mais c'est un peu ça, quoi.
Je vous propose d'enchaîner avec un peu de musique. Alors, de la musique pour cette émission qui sera liée à une actualité. Il y a un jeu qui va fêter ses 25 ans. Oui, bah quasiment. Hein.
Ouais, parce que je vois beaucoup de gens y jouer.
On va dire pour de grands enfants, hein, c'est clair.
Alors, je rectifie, c'est pas vraiment un jeu. Ici, on parle carrément d'une franchise. C'est Pokémon qui va fêter ses 25 ans. Forcément, Pokémon, dernièrement, vous avez pu le voir dans la rue. On parle ici des gens qui marchent avec un mobile à la main et qui chassent des Pokémon en non, réalité augmentée.
Ils sont en train de vérifier s'ils n'ont pas croisé des gens qui ont le virus, c'est ça?
Il y aura bientôt un mode comme ça. Il y avait déjà le jeu de réalité augmentée de Walking Dead qui était pas mal. On a eu Pokémon, on a eu Harry Potter aussi. Et je fais un petit spoiler, j'en profite. Est-ce qu'il y aura peut-être un jeu Blizzard en réalité augmentée? Est-ce qu'à la BlizzCon, on va pas nous... Je pense que ça, c'est à mettre dans la liste, puisque pour moi, alors attention, ici on est sur des previews, ça risque d'être annoncé à la BlizzCon, puisqu'il y a de nombreux jeux mobiles qui sont en développement chez Blizzard. Alors, on en saura plus prochainement. Pour fêter ses 25 ans, Pokémon a décidé de faire une année musicale. Et pour cet événement qui s'appelle le P25, il va y avoir plusieurs artistes qui vont être sélectionnés. Et il y en a déjà deux qui sont en tête d'affiche. Il y aura Post Malone et Katy Perry. Deux grands artistes qu'on écoute tous les jours, hein, bien sûr.
Absolument. Sur Radio Campus, au moins une fois par heure, je pense.
Ah bon, alors...
Bon, il faut les écouter. On ne prévient jamais.
Qui ça, hein?
Alors nous, on a décidé de s'écouter un peu de Malone, du coup, hein, pour être vraiment à la pointe de l'actualité. Donc Dominique, vu qu'on parle ici de jeux de société pour enfants, tu as proposé d'écouter un peu de Vincent Malone.
Ben oui, le roi des papas, c'est bien connu. On l'a déjà passé dans l'émission, hein, pour notamment ses albums de trompette magnifiques. Mais il a fait beaucoup d'albums sous le nom du roi des papas.
Est-ce que tu as une préférence pour la musique que nous allons écouter?
Vu qu'on est un peu avant l'heure de manger, il y en a une qui est sympa qui s'appelle Colique dans les prés. La chanson en texte.
Voilà, écoute, allez, c'est vendu.
C'est à moi. Colique dans les prés, surgisse, surgisse. Colique dans les prés, je n'ai pas de papier.
Les feuilles d'automne, emportées par le vent.
C'est beau.
C'était le roi des papas qui, pour cet album, le retour du roi des papas, les contes, les comptines et les autres chants, nous a proposé Colique dans les prés.
Voilà. On est tous partis aux toilettes là, on revient.
C'est ça, dehors.
On aurait pu passer L'ours qui pète et qui rentre aussi, mais bon, c'est dans le même genre.
Il avait fait une reprise d'Antisocial qui était également difficilement écoutable. Je vous propose d'enchaîner, toujours dans l'As d'or, cette catégorie des jeux pour enfants, les jeux juniors. Nous avons Kraken Attack. Ici, nous sommes également dans un jeu coopératif.
Et pareil, hein, toujours pour la gamme, allez, à partir de 7 ans et plus, une vingtaine de minutes environ, effectivement. Mais ce coup-ci, il y a des pirates.
Kraken, pas un Kraken.
Et un Kraken avec plein de tentacules. Ici, chaque joueur va avoir un positionnement sur un petit bateau. Et sur le côté, il va y avoir des tentacules qui vont avancer. Et le but est de rester en vie et d'avoir son bateau dans le meilleur état pour pas qu'il coule. Puisque ici, on en a parlé lors de la dernière émission, généralement les jeux pour enfants, c'est difficile de faire perdre tout le monde ou de tuer des personnages. Bah ici, il est possible que tout le monde perde l'aventure et que le bateau coule.
Ouais, Reynald, ça ne le dérange pas de faire perdre tous les enfants.
Non, c'est pas de souci.
Alors ici, chaque joueur va incarner un personnage de pirate et va avoir une liste de cartes, un petit deck de cartes qui est propre à chaque personnage et dessus une liste d'actions. Et lorsque chaque joueur pioche une carte, il va pouvoir décider de l'action qu'il va pouvoir réaliser. Alors dans ces actions, vous allez pouvoir soit tirer au canon, au pistolet ou au sabre, qui dépendent un peu de l'avancée des tentacules qui sont sur le côté. Vous allez pouvoir vous déplacer sur le bateau pour pouvoir soit réparer un trou spécifique, soit consolider le bateau, soit attaquer une tentacule. Tout va se faire avec des lancers de dés qui vont déterminer si le kraken avance ou si les tentacules avancent pour attaquer le bateau.
Comme tu parles des tentacules, tu as 4 tentacules rouges et 4 tentacules bleus qui sont mis de chaque côté du bateau. Et en parlant des dés, tu as en début de partie un dé bleu et un dé rouge, et en fonction du résultat de la couleur du dé bleu va influencer les tentacules bleus. Ce qui fait que potentiellement, les enfants vont devoir aller se protéger là où se trouvent les tentacules bleus, parce qu'ils avancent trop vite. Et quand un tentacule arrive jusqu'au bateau, il détruit le bastingage, donc on va dire la défense des joueurs, et revient à sa position de départ. Si le tentacule revient une nouvelle fois sur le bateau alors qu'il n'y a plus de défense, là elle met un trou dans le bateau et au bout de 4 coups le bateau est coulé.
À noter quand même la petite chose sympa, c'est que les pirates peuvent faire des grimaces au kraken, du coup ce qui énerve le kraken en fait. Bon, moi je trouve ça assez marrant comme clin d'œil, c'est amusant.
En fait, tu es obligé d'utiliser ces cartes-là parce que les enfants vont choisir une carte pour faire les actions qui sont marquées dessus. Mais s'ils ne font pas de grimace au kraken, le kraken n'avance pas sur la piste qui l'amène jusque dans le jeu. Et le but pour les enfants de gagner, c'est d'infliger 4 dommages au kraken, ou 3 dommages, je sais plus, pour que le kraken en a marre de les embêter et s'enfuit et que les enfants ont gagné. Donc tant que le kraken n'est pas en jeu, ils vont s'amuser à jouer des dés pour repousser les tentacules, mais le jeu va stagner. Par contre, en faisant des grimaces au kraken, ça va l'énerver, ça va le faire venir dans le jeu tout doucement, mais ça va le faire passer par des cases où se trouvent des dés rouges ou des dés bleus, qui vont le faire ajouter aux dés qu'il lance en début de tour à chaque fois. Donc petit à petit, ils vont se compliquer la tâche, parce qu'il va y avoir beaucoup plus de dés lancés et qui vont influencer le jeu, où il va y avoir plus en plus de tentacules qui vont bouger. Mais en même temps, ils ramènent le kraken tout doucement vers le plateau de jeu, où là, ils vont enfin pouvoir le repousser à plusieurs reprises pour lui infliger des dégâts et gagner le jeu.
Il y a un super matériel dans ce jeu. Moi, je n'ai pas joué, mais je l'ai vu jouer au Salon d'Amiens, mais pas par des enfants, par des grands. C'était que des grands qui jouaient, et quand ils avaient fini une partie, ils voulaient en refaire une tout de suite. Donc, c'est un bon mécanisme.
Ben, dis-toi, quand tu connais l'auteur qui est Antoine Boza, qui l'a fait avec son fils Esteban Boza, forcément le même nom, tu retrouves des mécaniques de ses premiers jeu chéri, où par exemple si le pirate peut se déplacer, il se déplace d'une case qui se trouve adjacente à lui et par exemple peut réparer ensuite une défense du bateau. Et tu retrouves les mécaniques de coopération de groupe comme par exemple l'avait fait sur Ghost Story en 2008, qui a été un jeu excellent. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il a été réédité l'année dernière, qui s'appelle Last Bastion.
Ici, on est vraiment sur un jeu qui est destiné aux juniors.
On peut même jouer tout seul, hein, celui-là.
Oui, il y a une version tout seul. Il y a même des variantes experts. Une fois que vous avez vraiment maîtrisé le jeu, vous pouvez mettre des petits pions qui font que les tentacules se téléportent et avancent plus vite. Mais je pense que ça peut être assez compliqué, hein, puisqu'on voit plus on approche, plus on lance 2 dés, plus il va falloir se concentrer. Est-ce qu'il vaut mieux cette fois-ci réparer le bateau ou plutôt attaquer la tentacule? Ça, pour moi, c'est des choix qui sont plus destinés à des jeux généralement pour adultes ou adolescents.
En même temps, le bateau ne fait que 4 cases. Il n'y a pas beaucoup de déplacements, donc de gestion de risque et de priorité. Donc un enfant ou les enfants peuvent en parler et gérer ça assez rapidement. Et c'est le genre de jeu où si jamais tu fais une bêtise, bah, c'est pas grave, tu perds la partie, mais t'en lances une derrière tout de suite, quoi. Là-dessus, c'est un des rares jeux dits enfants où je testerais volontiers une partie, même entre adultes, sans problème.
À l'inverse, par contre, je pense que des enfants qui ont 10-11 ans seraient pas forcément, ne seraient plus intéressés par ce type de jeu. En fait.
Tu rigoles, tu joues des pirates, c'est génial.
Ouais, je sais pas. Pour les jeunes enfants, oui, je comprends, mais bon.
Mais ils seraient intéressés par quel type de jeu, du coup? Des jeux sur mobile?
Non, ou franchement, des jeux un peu plus pour... Alors, pas adultes, hein, forcément, à 10 ans. Mais à 10 ans, tu as quand même d'autres jeux... Enfin, ceux-là, oui, ok, ils feront peut-être une ou deux parties, mais je pense qu'ils y joueront pas aussi longtemps que ce que pourraient faire effectivement des plus jeunes enfants de 7-8 ans qui pourraient, à mon avis, faire 3-4 parties d'affilée.
Alors là, on n'a pas encore cité tous les jeux, mais je pense que parmi tous les jeux qu'on vient de citer, ça sera peut-être celui qui aura plus de rejouabilité sur le temps. Et moi, c'est un peu mon coup de cœur par rapport à ça, parce que je trouve que justement, il y a des mécaniques qui permettent d'y rejouer, et même y jouer limite lors d'un apéro avec des adultes, en s'ajoutant des petites règles un peu plus experts éventuellement.
Oh, les adultes que j'ai vu jouer, ils avaient pas gagné. Hein.
Après, pour rejoindre un peu ce que dit Pierre-Yves, c'est quand t'es enfant, le matériel du jeu est nickel. T'as le petit Kraken qui avance sur sa piste, qui est représenté par une figurine. Enfin, les enfants de 7 ans et plus vont voir le matériel, vont avoir envie d'y jouer. Par contre, une fois, tu vas vite comprendre que, en fait, le jeu est un énorme casse-tête. Et le matériel, tu vas complètement l'oublier et te focaliser sur le casse-tête en disant, il va se passer ça au prochain tour, il peut se passer ça au prochain tour, comment je peux le prévoir? Et la thématique, tout ça, enfin, tout va être oublié et tu vas penser qu'au casse-tête. Et pour les enfants, c'est, ou pour les préados, il n'y a plus d'intérêt.
Et le fait qu'il y ait des lancers de dés, ça ajoute quand même un côté aléatoire qui fait que chaque partie sera différente.
Oui, ça c'est vrai.
Forcément, à 12 ans, peut-être qu'ils ont d'autres priorités que le jeu de société, mais si on a des enfants qui aiment le jeu de société à cet âge-là, je pense que de temps en temps, ils aimeraient bien sortir un Kraken Attack plutôt qu'un des autres jeux qu'on vient de citer, par exemple.
Après, c'est vrai que... Alors, bon, Dragomino, c'est à partir de 5 ans, parce qu'en fait, à partir de 8 ans, admettons, vous avez le jeu la King Domino, et effectivement, je pense que quand vous avez 8-9 ans, vous avez envie de passer à la version plus supérieure, je dirais. Effectivement, François, c'est vrai que peut-être que le jeu Kraken Attack, enfin, ça a plus de rejouabilité peut-être que les autres jeux, c'est vrai.
King Domino, le point faible pour un enfant de 8 ans, ça va être le calcul des scores de fin de partie. Et puis surtout de se dire que pendant la partie, tu es en train de construire une sorte de moteur de score. Pour nous, adultes, jouer à King Domino, il n'y a aucun problème, parce que tu sais faire la part des choses. Alors que là, avec un Kraken Attack, même si tu as 8 ans ou 10 ans, les règles sont simples, tu as juste à prévoir tes coups pendant la partie, et soit tu perds, soit tu gagnes.
Ouais, après, King Domino, même si tu as 8 ans, effectivement, ils le jouent un peu à l'instinct, les enfants, et bon, effectivement, je suis pas sûr que ce soit le score final qui compte, c'est plus le plaisir qu'ils prennent à jouer que le score final.
De toute façon, on sait très bien qu'avec les enfants, généralement, on modifie un peu les règles et les scores à la fin pour les faire gagner.
Hein. Non, surtout pas.
Alors ça, faut pas.
Énorme erreur. Voilà, faut les massacrer dès que t'as l'occasion.
Tu leur apprends pas la frustration avec les autres sociétés, malheureux, tu vas souffrir. Ouais.
C'est une des grosses erreurs dans le jeu pour enfants. Hein.
Tu leur offres de l'argent de poche et tout de suite après, tu la raquettes, quoi. C'est bien connu, bravo.
Tu leur offres l'argent de poche, puis après, tu fais, bon, alors, il y a la taxe de ça, tu me dois autant.
C'est une philosophie. Moi, j'aime bien faire égalité, moi. Dire, voilà, t'as gagné celle-là, et moi, je gagnerai la suivante. Et généralement, j'essaie de toujours avoir... Je dis, c'est pas grave, tu gagneras la suivante.
Après, il y a des jeux où, de toute façon, même quand tu essayes de gagner en tant qu'adulte, t'y arrives pas. De toute façon, tu fais toujours battre à pas de couture par les enfants.
C'est pour ça, faut rien lâcher.
Surtout les jeux de mémoire où généralement, il y a un moment, tu te dis, c'est pas possible, il retient mieux que moi. Donc bon, ça, par contre, faut pas lâcher, je confirme. Et ça tombe bien parce que jeu de mémoire, c'est un peu le jeu suivant, donc c'est une belle transition.
Effectivement, puisque le dernier nominé, c'est La Maison des Souris. Ici, effectivement, un jeu de mémoire et un jeu où le plateau est un peu intégré à la boîte, où vous allez construire une sorte de petite maison avec la boîte et vous allez avoir une série d'objets de plusieurs couleurs selon la difficulté à laquelle vous voulez jouer. Donc si vous voulez jouer en facile, vous allez prendre que les objets verts. Si vous voulez jouer en moyen, les objets verts et orange. Et en difficile, vous allez prendre la gamme avec également les objets rouges. Et en gros, le principe du jeu est assez simple. Vous allez prendre tous ces pions, les mettre dans la boîte, secouer un peu la boîte pour qu'ils se mélangent, puisque la boîte est divisée en plusieurs pièces. Alors, 4 pièces, si je ne me trompe.
C'est ça.
Une fois que vous avez mélangé, chacun va avoir un temps pour regarder parmi les petites fenêtres qui sont autour de la boîte.
C'est ça, on allume une lampe au-dessus de la maison et pendant 30 secondes, elle va éclairer l'intérieur de la maison. On a 30 secondes tous ensemble pour essayer de repérer les objets et dans quel sens ils sont orientés.
Donc, il va falloir de 1, réussir à les repérer et de 2, les retenir. Puisque une fois que la lampe est éteinte, chacun va voir... Alors, il y a un petit carton avec des questions en disant « Est-ce que tel objet, par exemple, dans quelle pièce est-il ?» Et chacun va devoir poser sa réponse. Et vous avez plusieurs séries de questions comme ça qui vont faire appel à votre mémoire par rapport à ce que vous avez observé dans la maison. C'est bien ça, hein ? J'oublie...
Non, ce qui est bien, c'est dans ce jeu, c'est que tu as que 2 fentes de chaque côté de la boîte pour regarder à l'intérieur, mais qu'il n'y a qu'une seule source de lumière qui vient en plein milieu et donc qui est découpée en avec les quatre parties de la boîte, ce qui fait qu'il n'a pas des lumières vives. Et donc les enfants qui vont regarder à l'intérieur des fenêtres pour regarder les jetons, de quel côté se sont trouvés ou dans quelle pièce ils sont, vont pas forcément voir comme en plein jour. Donc ils vont devoir vraiment se tortiller, regarder à droite, à gauche, à travers la même fenêtre, haut en bas, pour être sûr de rien louper. Et après, dans les questions qu'on peut te poser, dans le salon, est-ce qu'il y a ces objets-là ? Il faudra que tu mettes d'autres jetons sur oui, il y est, non, il y est pas.
Voilà, les questions vont changer à chaque fois selon la partie. Les pions vont se retrouver dans des pièces différentes. Donc c'est assez sympathique, en tout cas au niveau de la rejouabilité, sur la différence qu'on va avoir entre chaque expérience de jeu.
Une nouvelle amélioration sur les jeux de type mémoire. Alors, c'est le deuxième jeu dans tous les nominés pour l'As d'Or pour Gigamic, et c'est aussi le deuxième jeu donc de Théo Rivière qu'on avait cité tout à l'heure.
Alors, juste en parlant de ça, c'est vrai que ce qu'on n'avait pas dit avant, c'est que Loki, du coup, qui est éditeur, a sorti deux jeux justement pour cet As d'Or. Donc, le tout premier jeu dont on a parlé, donc Détective Charlie, et puis aussi le troisième jeu, donc celui qu'on avait juste avant. Du coup, je sors mon anti-sèche, donc Kraken Attack.
Ici, je pense que ça va sûrement plaire aux enfants d'avoir cette interactivité, d'aller sur les côtés de la maison pour observer les pièces. J'ai plus peur par rapport aux adultes qui vont jouer avec les enfants. Et est-ce que ça va plaire aux adultes et aux enfants? C'est là où j'ai plus une interrogation.
Tu joues ensemble, donc de ce moment-là, tu es toujours censé t'amuser. C'est un jeu coopératif, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Les parents se mettent un peu en retrait et laisser l'enfant regarder dans toutes les pièces, ou les enfants regarder dans les pièces, et après faire une sorte de maître du jeu en posant les questions qu'il a sur la feuille les unes après les autres, et les enfants répondre pour après, une fois que toutes les questions ont été répondues, soulever le matériel pour voir effectivement où sont les jetons et faire le tri entre les bonnes et les mauvaises réponses. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que pour gagner, les enfants doivent avoir 12 points sur les questions qui ont été posées. S'ils n'atteignent pas les 12 points, ils n'ont pas réussi à faire le jeu.
Justement, je dirais qu'en tant qu'adulte, en fait, ce que vous pouvez essayer de faire, surtout, c'est jouer contre vous-même, c'est-à-dire de réussir à répondre à toutes les questions. Effectivement, vous pouvez aider les enfants, bien sûr, mais pour qu'il y ait un peu de challenge, justement, et faire, jouer avec votre mémoire, vous tester avec votre mémoire, c'est de se dire, tiens, est-ce que je suis capable de répondre à toutes les questions? Ou même, est-ce que je suis capable de répondre avant que les enfants ne répondent? Et ça, c'est pas gagné non plus.
Ouais, tu fais un jeu tout seul dans ta tête.
Un challenge ultime, c'est que tu fais le jeu, tu le mélanges les jetons, tu regardes à travers les fenêtres pendant 30 secondes, et seulement après, tu vois les questions qu'on te demande. Ce qui veut dire que tu ne sais pas à l'avance si on te demande dans telle pièce quel jeton se trouve. Donc tu es obligé de retenir le maximum d'informations parce que tu ne sais pas laquelle est utile et laquelle est inutile.
Ou le mode expert, tu ne regardes même pas, tu fais tout à l'oreille.
Bon, après, dans le même genre, effectivement, il y en a pas mal, hein, des jeux dans le même type. Il y a Pic-Plume qui est peut-être alors pour des enfants un tout petit peu plus jeunes. Mais pareil, hein, du coup, alors là, c'est pas un coopératif, c'est chacun pour soi. Mais donc, c'est aussi un jeu de mémoire où, en fait, vous faites avancer une poule, en fait, et quand elle dépasse d'autres adversaires, vous devez essayer de retrouver des paires de dessins. Et ça aussi, c'est très amusant à la fois pour les enfants et les adultes. Et après, alors, il y a un autre jeu qui est le labyrinthe magique. Et en fait, là, donc, vous faites avancer une bille. Alors sous un plateau, et du coup il y a des obstacles cachés qui font que la bille s'arrête de bouger, et vous devez réussir à les retenir, en fait, à deviner où ils sont et à les retenir pour réussir après à faire avancer la bille jusqu'au milieu du plateau. Et ça aussi, c'est très très amusant, aussi bien pour les enfants que pour les adultes.
Bah tiens, vu qu'on parle des jeux de mémoire, moi j'avais testé la potion des sorciers, qui est effectivement un jeu d'ABBA qui permet de jouer à partir de, je pense, 5 ans. Et c'est un peu le même genre de jeu où la boîte va faire partie un peu du décor, où vous allez tourner une roue pour faire des potions magiques tout en retournant des potions et essayer de trouver la bonne potion.
De toute façon, les jeux ABBA, tu t'embêtes pas, hein. Tu fonces, même entre grands, tu peux y jouer sans problème.
Ouais, c'est ça. Puis ils ont un design.
Ouais, c'est du bon matériel, c'est des bonnes grosses boîtes, bien remplies.
C'est ça, donc ABBA, H-A-B-A. Rien à voir avec le groupe de musique que nous n'allons pas écouter maintenant.
On aurait pu en passer.
Zut! Je vous propose de... Alors, on a parlé tout à l'heure de Pokémon pour la P25 pour fêter leur anniversaire de 25 ans. Ils vont inviter Post Malone, mais ils vont également inviter Katy Perry. Alors, comme tout à l'heure, on a écouté du Vincent Malone, là, je vous propose d'écouter du The Ben Perry. Voilà, c'est un groupe folk, rock, pop et tout ce qui marche en ce moment ou tout ce qui fait vendre. Je vous propose.
Ils font du rap aussi ?
T'en as oublié un, je pense. Je suis sûr que tu as oublié un adjectif.
Bah, le rap.
Du rap jazzy pop orchestral, bien sûr. Ici, le morceau s'appelle Dawn et de leur album Pioneer, sorti en 2013. C'était The Ben Perry avec Dawn. On enchaîne, on parle toujours un peu de jeux de société pour enfants. Alors cette fois-ci, on ne va plus parler des nominations des As d'Or, mais plutôt de quelques jeux typiques qui sont des rééditions de jeux pour adultes, qu'on pourrait considérer dans une catégorie comme expert, et qui ont été adaptés en version junior. Et on voit ça de plus en plus. Alors on a cité tout à l'heure Dragomino, hein, qui était une adaptation également. Je vous propose, parce que j'en ai testé quelques-uns, de parler par exemple de L'Âge de Pierre. Alors L'Âge de Pierre est sorti quand même depuis un bon moment hein, pour les adultes. On y a joué ensemble hein, d'ailleurs. Je pense que Pierre-Yves, toi tu as toujours ton édition de L'Âge de Pierre ?
Alors je ne l'ai plus en fait, je l'ai offerte à l'un de mes neveux, mais en tout cas c'est une excellente édition, je confirme.
C'est pareil, j'ai revendu le mien à un moment.
Alors L'Âge de Pierre c'était simple. C'était un peu un jeu de gestion de ressources afin de construire son village.
On gérait une tribu de... Enfin, chaque joueur gérait une tribu de, d'hommes de l'âge des pierres, tout simplement. Le but, c'était de le développer le plus possible en marquant des points.
Alors moi, j'ai vu ça et je me suis dit, bah tiens, je suis assez curieux de savoir quelle sera la mécanique, comment est-ce qu'on adapte un âge de pierre pour les enfants.
Oui, parce que faire jouer à des enfants à l'âge de pierre de base où il y a beaucoup de calculs et de comptage de points, c'est vraiment pas possible.
Là, c'était une simplification à l'extrême. À savoir que le but du jeu est de construire trois huttes qui vont être disponibles pour tout le monde au centre de du plateau. Et en dessous de chaque hutte, vous avez quelques ressources. Donc dès que vous avez ces ressources, vous allez prendre la hutte au milieu de la table, la construire dans votre campement. Il faut en avoir trois. Et on remplace, on retourne une nouvelle hutte qui permettra à un autre joueur de la construire, ou même vous, si vous êtes assez rapide. Les déplacements des joueurs vont se faire sur plusieurs petits pôles. Il y a le pôle où vous avez récolté des poissons, d'autres où vous avez récolté de l'ivoire, d'autres où vous avez récolté de la pierre. Et pour vous déplacer, vous allez mettre autour du plateau des pions, qui vont ici faire appel à votre mémoire, puisque une fois que vous retournez le pion, au bout d'un moment, celui-ci va être retourné face cachée à nouveau et vous allez pouvoir reprendre cette action. Alors, soit directement aller chercher une ressource, soit vous déplacer d'un certain nombre de cases. Et pour avoir testé avec des enfants assez jeunes, c'est facile à expliquer et mine de rien, ils arrivent très vite à comprendre le système pour construire leur hutte eux-mêmes.
Donc, aller récolter de l'ivoire, c'est pas très, c'est pas très au goût du jour maintenant.
Ouais, mais c'est justement, c'est l'âge de pierre. Hein, c'est bien pour faire la différence avec maintenant.
C'était pour des mammouths, et les mammouths, il n'y en a plus, ils ne peuvent plus faire un hashtag MeToo.
Justement, parce qu'on leur a enlevé toute leur défense, c'est pour ça, sinon il y aurait encore des mammouths.
Et là, je peux vous assurer que pour un adulte, niveau mémoire, c'est pas évident. Hein, donc, effectivement, là, il ne faut pas faire de cadeaux, comme on disait tout à l'heure, hein, parce que là, vous avez de grandes chances de perdre.
C'est surtout, comme tu disais, que tu as les huttes à construire demandent un certain type de ressources et un nombre de ressources de chaque type, par exemple, ou une combinaison de ce type, et que si tu commences à magasiner des ressources qui vont pour une hutte et que ton adversaire te l'a construit avant toi, tu te retrouves à devoir reconstruire des ressources, à les refaire. C'est comme ça que tu perds du temps et que tu peux perdre une partie.
Surtout que le début est complètement aléatoire, puisque tous les pions sont cachés, donc tu récoltes ce que le jeu veut bien te donner, mine de rien. Un autre jeu qui, cette fois-ci, va peut-être amener à un débat. J'ai vu également à côté de mon premier âge de pierre, mon premier Carcassonne. Alors Carcassonne, est-ce qu'il est encore besoin de préciser ce jeu qui est un des plus connus, peut-être des jeux pour adultes, où vous allez poser des tuiles et essayer de construire des routes, des villages. Et j'ai été tenté au premier abord de prendre mon premier Carcassonne, sachant que j'ai déjà l'édition Carcassonne pour adultes. Et en regardant un peu les points, en fait, c'est juste que le comptage de points a été simplifié pour les enfants. Et le graphisme également est un peu différent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'empêche, moi, de prendre mon Carcassonne et de l'adapter, d'adapter tout simplement le comptage des points pour les enfants?
Mais en fait, il y a pas, parce que dans le Carcassonne normal, il y a beaucoup de façons, enfin beaucoup, il y a plusieurs façons différentes de marquer des points, où on peut entrer en concurrence. Là, ils en ont éliminé quelques-unes, et je ne sais même pas s'il y a le principe de la concurrence ou de l'élimination. Donc, si un joueur a une majorité sur une route, c'est lui qui va marquer tous les points et les autres vont rien marquer. Là, je ne sais plus s'il y a ce principe-là. C'est un petit peu moins compétitif.
Ouais, je ne suis pas sûr que sur mon premier Carcassonne, tu aies aussi la volonté de construire des villes que les grandes pouvaient ramener 2 points, par exemple.
Oui, il n'y a pas de ville là. Oui. C'est uniquement relié des routes.
Bah, moi, j'ai testé en réadaptant mon édition de Carcassonne. Et je trouve ça mieux que l'édition de mon premier Carcassonne, par exemple.
Je t'avouerai, j'y ai pas joué, donc je ne connais pas les règles à 100%.
Je crois que le niveau du matériel, les tuiles de la version enfant sont peut-être plus grandes, elles sont plus colorées, lumineuses, donc c'est vrai que pour des plus petits enfants, même tu peux jouer plus bas, et c'est vraiment une version simplifiée où le matériel est un peu adapté. Les bonhommes sont plus mignons, je trouve, etc.
C'est ça, mais le problème, c'est que tu vas y jouer de 4 à 6 ans, peut-être, et après... Le jeu va être complètement délaissé parce que trop simple. Alors, l'âge de pierre, par exemple, c'est pas forcément quelque chose que tu vas pouvoir adapter pour les petits. Par contre, des jeux comme Carcassonne sont plus facilement adaptables en version junior. Est-ce qu'il faut vraiment acheter toutes les éditions de mon premier jeu ?
Pas forcément. Mais dans le cas de Carcassonne, c'est un jeu où il y a énormément d'extensions et de versions. Il y en a presque tous les ans qui sortent. Et... Enfin, c'est vraiment un moyen de ramener du pognon, Carcassonne.
Mais maintenant, tu as la méga box. Donc, tu n'as plus à t'embêter, tu achètes la méga box et c'est fini.
Alors que même dans la méga box, tu vas jouer qu'avec la version de base et une ou deux extensions au pire. Donc, tu
vas dans la méga box, tu as la version de base et les extensions de la version de base. Mais comme dit Dom, tu as énormément de versions. Comme là, tu vois, moi j'ai le Carcassonne Préhistoire. Ça ne mènerait pas à l'idée d'aller acheter la méga box avec le Carcassonne de base et leur extension. Parce qu'aucune des extensions n'iront avec le Carcassonne que je possède.
Après, si vous avez une famille avec plusieurs enfants, avec on va dire 2-3 ans d'écart, ça peut aussi être un bon moyen pour que les enfants jouent ensemble entre eux.
Bah moi, je ne suis pas convaincu du tout par cette version de Carcassonne pour enfants. Je pense qu'il vaut mieux acheter la version adulte sans les extensions, l'adapter, et puis vous savez que dans 5 ans, vous pourrez jouer avec eux à une version un peu plus améliorée.
Au fur et à mesure.
Voilà, c'est ça, qu'on ne pourra pas faire avec tous les jeux. Par exemple, je vois quelqu'un a mis Agricola Family.
Par exemple, mais qui a pu mettre ça?
Je vois mal.
Alors attention, parce que bon, alors certes, Agricola, c'est vraiment un jeu pour experts. Agricola Family, bon, ils mettent à partir de 8 ans. Bon,
est-ce que c'est une version enfant?
Il faut déjà que... Oui.
C'est une version familiale.
J'allais dire,
c'est une version familiale du jeu.
C'est pas une version enfant, c'est pas une version genre, c'est une version famille.
Enfin, dans Agricola, le jeu de base, tu as la version. T'as déjà une version, comment dire, familiale en fait, hein, dans le jeu Agricola de base. Là, c'est quand même une version encore plus adulte.
Oui, c'est ça. Mais c'est simplifié. Pas vraiment une version enfant. Parce que quand tu vois le matériel, c'est déjà. Il y a le truc, c'est que c'est comme pour les bouquins, ou les films pour enfants, ou les livres pour enfants, on tombe toujours dans le piège de dire, on va faire un truc où on simplifie les règles, où on parle aux enfants comme si c'était des bébêtes, quoi. Alors que c'est pas le cas. Les meilleurs films pour enfants, ou livres pour enfants, c'est des films, des livres, où on s'adresse aux enfants, comme si on parlait à des adultes, même si c'est des tout petits enfants, faut leur parler avec un langage d'adulte, sauf qu'on adapte le thème. Donc, le thème des pirates qu'on a vu tout à l'heure dans Kraken, c'est parfait. Tu peux parler à des enfants de pirates en leur parlant comme des adultes. La préhistoire, c'est pareil, c'est parfait. Carcassonne, c'est un petit peu différent. Bon, c'est des gens qui se baladent éventuellement. Tandis que Agricola, c'est quand même une ferme du XVIIe siècle en Allemagne. Les enfants, ils s'en foutent. Enfin, tu vas pas attirer des enfants avec ça. À part leur dire qu'il y a des petits moutons et des petites vaches.
Bah voilà, mais c'est ça qui est marrant. Puis tu construis une ferme.
Agricola, c'est vraiment un jeu, un thème pour adultes, mais faudrait qu'ils adaptent vraiment quelque chose de plus tourné vers les petits animaux éventuellement.
Bah, je peux t'assurer avoir vu déjà des enfants y jouer et y prendre beaucoup de plaisir. Et vouloir rejouer, justement.
Ils avaient quel âge? Parce que c'est un sacré plateau, quand même.
6 ans. Mais bon, c'était des enfants déjà joueurs à la base. Donc, bon. Après, un autre jeu, du coup, par exemple, alors, je ne sais pas si vous connaissez le jeu pour adultes qui s'appelle Sight. Donc là, c'est ce qu'on appelle un 4X. Donc, vous devez explorer un plateau, exploiter des ressources. C'est très, très lourd. Par contre, vous avez un jeu qui s'appelle My Little Sight, justement, pour enfants, où finalement, ils ont simplifié les règles. Là, il n'y a plus trop de combats entre joueurs, mais c'est plutôt des combats où vous lancez des tartes, en fait. Donc bon, c'est pareil, hein, le thème a été un peu réécrit. Mais du coup, qui est aussi très, très bien, avec des jolies figurines.
Tu dis, ils ont adapté. Il y a une petite histoire là-dessus. C'est que Sight, c'est un jeu qui est fait par un auteur, donc j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, on l'a déjà cité. Enfin, c'est un jeu, c'est Stone Meyer, c'est ça. Stone Meyer Game, c'est un auteur qui est en train de cartonner depuis quelques années. C'est un jeu super compliqué. Il y a des tas d'extensions.
Un éditeur.
Ouais, l'éditeur et l'auteur aussi. Enfin, je crois que c'est le même auteur qui fait tout. Et c'est vraiment un super jeu qui cartonne. Et il a beaucoup de fans qui jouent à ces jeux. Et parmi les fans, il y a un fan, je crois que c'était un Canadien, qui jouait avec son fils, mais il trouvait le jeu un petit peu trop compliqué, donc il a fait sa propre version, il a pimpé sa propre version et il a créé sa propre version enfant, avec des figurines enfant, etc. Et ça s'est su dans la communauté des fans, et l'auteur, l'éditeur a vu ça, il lui a dit bah écoute, ta version elle est sympa, on va la faire officiellement. Donc c'est comme ça que le jeu, la version junior, a été créé.
On va la faire et t'auras zéro argent dessus.
Ah ça je sais pas trop, ça dépend de l'avocat du type.
N'hésitez pas à aller sur le Facebook, l'Instagram, le Twitter de l'émission pour nous proposer éventuellement des versions enfants de jeux experts, des idées que vous auriez. Ça peut toujours être intéressant. Alors, il y a d'autres éditions.
Il y a Concept aussi, par exemple, pour enfants. Concept Kids.
Tout à fait.
Parce que là, par exemple, c'est le même exemple que tout à l'heure, François. Tu peux jouer à Concept avec des enfants. Il suffit de pas utiliser tous les symboles. Tu en gardes qu'une partie. Là, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une version simplifiée avec des dessins plus gros et des thèmes aussi. Parce que dans Concept, on doit choisir un thème. Il y a des cartes. Et les cartes, si tu tires des noms d'hommes politiques, etc., à faire deviner, ou des super-héros qui sont connus par les plus grands, les petits enfants vont pas deviner, vont pas participer. Donc là, j'imagine qu'ils ont adapté en mettant des personnages. Comme Pokémon qu'on citait tout à l'heure, voilà, les adultes ça forcément moins les intéresser.
Pour Concept, le jeu de base, J'ai déjà joué avec un enfant de 6 ans ou 7 ans à l'époque. Le but, c'est de lui laisser le temps de s'approprier le plateau de jeu qui est assez austère à première vue parce que c'est que des carrés avec des icônes à l'intérieur pour. Mais une fois qu'il a compris ça, tu peux, bien sûr, il va prendre que des mots faciles au début parce
voilà,
que le temps qu'il réalise l'image qu'il a dans la tête avec les icônes qu'il a sur le plateau. Mais il va se le faire très facilement. Mais par contre, le concept fait pour enfants, j'ai un peu de mal.
C'est pour jouer entre enfants, je pense, plutôt.
Ouais, guidé quand même par quelqu'un pour gérer le jeu. Ouais. Alors, plus vulgairement, j'ai testé des Monopoly Junior. J'ai vu qu'il y avait un Destin Junior également. Je me dis, mais jusqu'où
c'est comme
est-ce qu'on va aller
fait de la vache à lait. Tant que les gens achètent...
Attends, ils avaient déjà le Monopoly Star Wars, le Monopoly Pokémon, le Monopoly Mario, le Monopoly Astérix. Enfin, là, pour le coup, c'est des éditions qui se vendent, tire-larigot. D'autres là, petits jeux peut-être plus intéressants pour jouer avec votre enfant. On peut citer...
Les Aventuriers du Rail, mon premier voyage.
Et ça...
Alors, juste... pas chalet, on est bien dedans aussi.
Ah, ça, c'est encore des jeux où il y a eu des tonnes d'extensions.
Alors là, et c'est les pas chalet qui regardent le train passer, c'est ça?
Ouais. Et à chaque fois, il y a des petites différences.
Un jeu peut-être un peu plus éducatif. Vous avez le jeu BioViva, où du coup, bon là, ce sont des épreuves à réaliser. Et quand je dis épreuves, en fait, c'est des questions auxquelles il faut répondre, donc sur des animaux, sur la géographie.
Non, pas des jeux avec des quiz, hein.
Bah si,
c'est bon, les gamins ils ont l'impression de faire des devoirs ou d'être interrogés à l'école.
Il n'y a rien de pire sur un jeu de dire que c'est un jeu éducatif. L'enfant,
ça devait être complètement interdit. C'est-à-dire les termes jeu éducatif, il y a beaucoup de gens du monde du jeu qui disent qu'il ne faut jamais mettre ces deux-là ensemble. C'est même pas du pléonasme, mais jeux éducatifs, c'est les pires, les jeux éducatifs. C'est des jeux qui sont faits pour apprendre, c'est des devoirs. Le jeu que tu viens de citer, c'est des devoirs. Tu vas dire aux enfants, eh ben, on va pas faire tes devoirs, mais on va faire un peu pareil. Je vais te poser des questions, tu vas répondre. Et c'est quoi? C'est l'école ou quoi?
Parce que regarde
mais c'est quand même un jeu, parce que tu as une compétition avec des adultes.
Non, mais c'est des devoirs déguisés en jeu. C'est ce qu'il y a de pire. Faut jamais faire ça.
Ouais, mais regarde, si tu veux regarder un jeu éducatif dans le sens où c'est un jeu qui va t'apprendre quelque chose, mais juste sur l'étiquette jeu, prends par exemple Cardland. Tu as des cartes avec des. Soit des animaux, soit des inventions, et tu dois les mettre à la bonne année ou à la fonction de la bonne caractéristique qui est demandée pour le jeu. Et en fin de compte, tu vas te dire, l'éléphant est plus lourd que l'hippopotame, ah, je me suis trompé là. Et ça fait partie du jeu, mais à la fin de la partie,
les enfants, ils vont apprendre sans avoir l'impression d'avoir fait leur devoir. C'est ça. Même le jeu qu'on citait il y a 2 minutes, là, les Aventuriers du Rail, mine de rien, il faut relier des capitales européennes ou mondiales avec des petits trains, etc. Mais à force de jouer, les enfants, ils vont connaître la géographie. Moi, je me rappelle, c'est le nom que j'avais cité, à force d'avoir, après avoir fait des tonnes de parties de risque, je sais où est le Kamtchatka par rapport à la Russie, par rapport à la Mongolie et tout ça.
Ça reste quand même très limité aussi.
Mais je m'en souviens encore.
Alors que par exemple.
Mais ça devrait être interdit, les jeux où il y a des quiz comme ça. Où on pose des questions avec des... Ah, c'est terrible, jeune.
Ah, pourquoi les génus, là? Non, comment ça s'appelait les Trivial Pursuit? C'est bien marrant, quand même.
Ou pas.
C'est les jeux d'une époque un peu révolutionnaire.
Ah, si. Moi, je me faisais un peu chier parce que je gagnais toujours, mais moi, enfin, ça... Mais non, c'est terrible.
Ah, bah voilà.
Tu vois, sur rien, il n'y a aucune créativité là-dedans. C'est ridicule. Quoi. Alors, tu peux faire une chose, tu peux le faire retenir des choses aux enfants, leur faire apprendre des choses, sans que ça fasse mémoire ou devoir ou ce genre de choses.
Maintenant, les jeux de quiz, tu les as plus dans le côté party game, comme par exemple un tu connais combien, qui lui va juste te proposer, dire voilà, on te propose un sujet, il y a 10 questions, tu penses être fort sur ce sujet à combien? Sachant que la question 1, elle est très bateau. Mais tu feras avancer ton plan plus efficace.
Celui qui gagne, c'est pas celui qui va tout savoir, parce qu'il y en a toujours dans le tas qui veulent ça. C'est ça. Moi, j'avoue, le trivial poursuit, je m'amusais même plus, quoi.
J'avais une question pour Pierre-Yves, ou pour ceux qui ont joué aux Aventuriers du Rail. Est-ce qu'il faut acheter la version junior, ou est-ce qu'on peut adapter son jeu, par exemple?
Pour le plateau, la version junior.
Je pense qu'ils ont adapté parce que les trajets sont plus courts, il y a moins de calculs, il y a moins de manipulation de cartes, j'imagine. Donc pour des enfants qui ont des mains plus petites, parce que voilà, dans certaines stratégies, tu peux avoir beaucoup de cartes en main aux Aventuriers du Rail. Donc pour un enfant, c'est peut-être un peu embêtant.
Surtout que les Aventuriers du Rail Junior, donc mon premier voyage, si c'est le seul nom de mémoire, tu as que des voyages avec 3 cartes demandées. Alors que dans les Aventuriers du Rail de base, ça peut aller jusqu'à 6.
C'est moins frustrant parce que c'est moins frustrant. Parce que dans le grand, quand on joue en adulte, tu peux accumuler les cartes et puis au dernier moment te faire voler. Alors, tu râles pas parce que ça fait partie du jeu, mais un enfant, il va peut-être un peu frustré, quoi. Il va peut-être pas forcément avoir envie de continuer si tu lui piques son trajet au dernier moment.
Ouais, après, enfin, pour avoir joué au jeu normal en allégeant un peu les règles avec des enfants, ça joue aussi, ça joue quand même.
Mais parce qu'il y a des trajets très longs sur certaines cartes. Hein, sur certaines.
Je pense que l'avantage de cette version, c'est qu'elle est plus rapide, en fait.
Et tu peux enchaîner les parties.
C'est ça, l'aspect plus sympa.
Ça peut être sympa de voir, si tu joues entre adultes, très compétitif, comment ça marche.
Rien ne t'empêche que si ton enfant ou l'enfant avec qui tu joues s'en sort très bien sur mon premier voyage, les aventuriers du rail, de jouer avec des règles plus allégées avec le plateau du jeu de base. Et normalement, il s'en sortira tout autant. Il faudra juste qu'il sera habitué à des chemins plus longs. Mais la mécanique sera la même.
T'as l'éditeur qui se frotte les mains parce que hop, ça fait deux boîtes vendues.
Après, je pense que vu le nombre de boîtes qu'ils vendent et le nombre de boîtes qui sortent...
Non, ils en ont jamais assez. Voilà. Et en plus, je suis sûr que pour les enfants, ils vont vendre des petits trains spéciaux avec des couleurs spéciales et tout, des petits goodies comme ça. Je les connais chez l'aventurier du rail.
Allez, une dernière édition junior avant de se quitter. Alors là, c'est junior. Hein. À mon avis, c'est pas enfant, c'est Andorre.
Andorre, comme on prononce. C'est un jeu qui a une paire d'années maintenant qui se joue entre... On est à la limite entre le jeu d'aventure, le jeu de rôle, etc. C'est un jeu avec plein d'épisodes. Enfin, c'est un jeu très très bon, Andorre. Mais plutôt pour les grands, il y a des combats, il peut y avoir des choses, des histoires un peu complexes à suivre. Et là, ils ont fait une version plus simple. C'est toujours du coopératif dans le monde, dans un univers fantasy, avec un terrain... un peu plus petit, mais bien détaillé, avec des aventures à vendre, et forcément un dragon au bout à tuer, normal. Mais il y a pas mal de lectures, donc je pense qu'il faut quand même, alors on n'est pas dans les tout petits là, je pense qu'il faut quand même un adulte pour lire les cartes et aider les enfants à gérer, faire un petit peu le maître de jeu, je pense.
Alors c'est destiné aux enfants à partir de 7-8 ans.
Mais je pense pas qu'ils jouent entre eux, parce que des fois il peut y avoir un peu de texte.
Alors, on peut citer Andorre parce qu'il a gagné l'As d'or de 2013, quand même. Hein, qui...
la version pour les grands, oui. Ouais, c'est vraiment un très très bon jeu, ouais.
Voilà, je vous propose de nous quitter avec vraiment la dernière petite news qui sort du sac. J'ai vu ça et c'est encore destiné cette fois-ci aux enfants qui souhaitent faire des petites vidéos.
Oh non, des futurs youtubeurs.
C'est ça, ils ont déjà leur téléphone portable ou empruntent le vôtre assez régulièrement. C'est Lego qui va faire un événement lié à la musique. Ils appellent ça le Lego Video. Ce sera disponible le mois prochain. Et c'est une expérience destinée principalement aux enfants qui vont récupérer des petits cubes en Lego. Lorsque vous allez avec votre portable scanner ces cubes en Lego, vous allez récupérer soit des musiques, soit des petits effets visuels que vous pourrez combiner pour en faire une vidéo avec vos héros en Lego préférés.
C'est très intriguant.
Voilà. Alors, ça ne met pas en scène les enfants, hein. Ça met en scène les personnages Lego qu'ils ont achetés. Donc déjà ça peut être déjà un peu plus rassurant que de les voir faire des vidéos eux-mêmes.
Puis, apparemment, ils vont pouvoir customiser les personnages, les vêtements, ils vont pouvoir inventer un nom de groupe, faire des pochettes. Il y a une maison de disques qui est derrière, là, qui fait déjà faire du recrutement de futurs idols ou quoi ?
Mais bien sûr.
Enfin, attention, c'est quand même pas gratuit.
Ah bah, c'est Lego.
Et après, il y a aussi un aspect un peu aléatoire, forcément, dans ce qu'on achète.
Est-ce que ce sont des figurines en plastique ? Parce que le plastique est en train de reculer de plus en plus. Même chez Lego, ils sont en train d'essayer de trouver des solutions pour abandonner le plastique.
Du coup, c'est un beau cadeau pour des enfants d'amis que t'aimes pas, en fait. Enfin, de gens que t'apprécies pas.
Surtout qu'après, ils vont devoir augmenter leur collection en achetant de plus en plus de Lego.
J'espère que ça fait beaucoup de bruit, hein.
Mais c'est marrant de voir que même Lego se lance dans cette sorte de réalité augmentée qui commence un peu à faire son chemin, mine de rien.
Peut-être que dans 6 mois, on passera le premier album découverte créé par des jeunes vidéos.
J'ai l'impression que tu le dis vraiment pour que ça sonne comme idiot.
Ah mais maintenant c'est ça, vidéo c'est le nouveau terme pour tous les youtubeurs, streamers, etc. Des vidéos, ça marche bien je trouve.
Voilà, on aura notre propre label, heureusement en France, Vidéo. Je vous propose de terminer cette émission pour toujours faire un lien avec cet anniversaire qu'on attendait tous, fêter ses 25 ans de Pokémon. Or, Pokémon, c'était mine de rien destiné aux enfants pour leur apprendre qu'on pouvait capturer des animaux, les mettre dans des petites boules et les faire combattre.
Exactement.
Résumé comme ça donne moins envie tout de suite.
Mais mine de rien, je vous ai donné le pitch incroyable, hein, et puis ils se battent presque à la mort. Enfin, j'ai essayé de chercher longuement, puisque l'interprète de la chanson Pokémon, alors chanson anglaise, bien sûr, Jason Page est surtout connu pour avoir chanté la chanson de Pokémon. Mais j'ai bien cherché et j'ai vu qu'il a quand même fait quelques autres musiques, notamment, alors on quitte un peu la période hivernale, mais je vous propose de terminer par The Silent Night, qui est un peu une chanson de Noël, mine de rien, mais chantée par Jason Page. Et encore une fois, c'est pas forcément un cadeau pour les codignous qui nous suivent. Mais bon, il faut découvrir hein, de nouveaux artistes, mine de rien. Et c'est
on a su,
et c'était mieux que de passer la chanson Pokémon, que certains dans l'émission n'appréciaient pas vraiment.
Personne n'appréciait.
Moi, j'aime bien, moi. Voilà, on va se quitter avec Jason Page avec The Silent Night. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Heureusement en France. On quittera peut-être l'univers du jeu de société qu'on a quand même bien exploité durant ces trois derniers épisodes. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
À plus.
Salut à tous.
Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.